Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur, Cop et Glon, votre magazine 100% OGC Nice, dernière ligne droite pour le gym qui va connaître son destin cette semaine. Ce sera la Ligue 1 ou bien la Ligue 2 vendredi soir dans ce match, dans ce barrage aller-retour contre Saint-Etienne. Les premiers indices seront donnés demain soir à partir de 20h45 à Geoffroy Guichard. Le dénouement aura lieu vendredi dans une Allianz Riviera à huis clos, on le rappelle, à 20h45. Également, on reviendra sur cette finale, également perdue contre le Racing Club de Lens au Stade de France. Défaite 3-1 avec pas mal de regrets pour m'accompagner ce soir dans Cop et Glon. L'avant-dernier de cette saison, jusqu'à d'ailleurs émission rallongée ce soir jusqu'à 19h40-45. John Wallis est avec nous, supporter de l'OGC Nice. Bonsoir John.
Et bonsoir Sam, si j'avais cru vous entendre dire Ligue 1 ou Ligue 2 en début de saison.
Surtout qu'on a commencé, il faut le dire à nos téléspectateurs, on a commencé Cop et Glon, enfin en tout cas sur BFM cette saison, avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'était le 20 juillet dernier.
Tout ça sur la même saison.
Ouais, tout
c'est
à fait.
Incroyable.
L'ascenseur en tout cas émotionnel cette saison, on l'a vécu également avec Maxime Tillet, journaliste RMC Sport. Bonsoir Maxime.
Salut Samuel, bonsoir à tous.
Les sensations, les vibrations à J-1 de ce barrage aller.
Ça vibre pas très bien.
En silencieux.
Ouais. On est raccord.
Bon avion.
On est raccord. Bon avion. Fabrice Moreau est avec nous également. Il nous fait le plaisir d'être sur ce plateau. Ancien speaker, la voix de l'OGC Nice de 2014 à 2024. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir Sam, bonsoir à tous.
Quelle voix. Tout va bien?
Ouais. Ça ira mieux vendredi.
Soir. On espère, on espère. Mais et puis Guy, correspondant Nice Matin et supporter du gym. Bonsoir Guy, qui maintenant est titulaire sur ses dernières éditions, sur ses derniers numéros. Il est avec nous, Guy, pour voir comment ça va se passer, le dénouement de cette saison. Bonsoir.
Ouais, je suis là pour vous aider à supporter le malheur qui nous accable. on va essayer de rêver pour que ça ne continue pas. Bonsoir à tous en tous les cas.
Au sommaire de cette émission, nous reviendrons évidemment sur cette finale de Coupe de France dans la première partie de cette émission, cette défaite 3-1 au Stade de France face au Racing Club de Lens. La deuxième partie sera divisée entre les top flops d'un côté et un focus ce soir consacré au destin de l'OGC Nice. Je vais vous poser la question cash ce soir. Est-ce que le gym a plus de chances de quitter l'élite ou bien d'y rester? Voilà, comme ça le mérite d'être clair. Vous préparez pour cette deuxième partie de Cop et Glon. La troisième, elle sera consacrée à un autre focus, à l'adversaire de ce barrage Ligue 1, Ligue 2, la Saint-Etienne, qui compte 9 victoires sur ses 14 derniers matchs portés par un Geoffroy Guichard comble et galvanisé aussi par une séance de tir au but complètement folle contre Rodez en pré-barrage. On s'intéressera aux forces en présence du côté des Verts avec Thibaut Auclair qui sera en visio avec nos journalistes au service des sports du Progrès. Voilà le programme de ce 37e épisode de la 5e saison de Cop et Glon. C'est parti. Nous, on va prendre la direction tout de suite du Stade de France pour voir ce qui s'est passé entre Lens et Nice. Les images de cette 109e finale de Coupe de France, la première remportée par les 100 et or, d'abord sur ce but de Florian Thauvin à l'ouverture du score lensoise, qui est suivi par ce coup de boule d'Hudson Edouard. Ça fait 2-0 pour le Racing. La réduction du score, elle est signée Djibril Koulibaly sur le gong de cette première mi-temps. À l'heure de jeu, vous allez voir peut-être le tournant de cette rencontre. La tête d'Antoine Mendy qui vient s'écraser sur la barre transversale de Robin Risser. Occasion manquée pour le gym qui va concéder le nouveau break cartésien. Abdallah Sima punit l'OGC Nice et ses nombreuses erreurs défensives sur cette action. Le Racing Club de Lens s'impose 3-1. Le gym sort du Stade de France battu comme en 2006 et comme en 2022. Mais à la différence d'il y a 4 ans, John, le gym l'a joué cette finale.
Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu hors plateau. C'est que ça a montré des valeurs qu'on n'avait pas vues depuis longtemps ou très sporadiquement pour le coup. Là, on a quand même vu une équipe qui, on va pas se mentir, était inférieure sur le papier par rapport aux forces adverses. Et pour autant, on n'est pas passé loin de pouvoir espérer arriver à cette fameuse séance de tir au but que on espérait plus ou moins tous avant le début du match. Il y a quand même des grosses erreurs défensives, notamment le deuxième but. Je trouve que c'est quand même trop flagrant pour dire qu'on méritait quelque chose dans cette finale. Quand tu vois quatre joueurs de l'OGC Nice dans la surface, dans la zone de réception du ballon, mais aucun qui peut l'avoir. C'est récurrent, c'est pas la première fois qu'on est faible sur les coups de pied arrêtés. Donc oui, voilà, il y a du bon, mais il y a encore des choses à améliorer.
On a le sentiment, Max, que cette finale aurait très bien pu basculer finalement du côté de l'OGC Nice. Il y a beaucoup de regrets quand même ce soir.
Bah, les regrets sont sur la frappe de Wailly à 8 mètres devant un but vide et il loupe le cadre. À 2-1, il y a la tête d'Antoine Mendy. Même à 3-1, à la 84e, il y a le poteau touché de la tête par Kevin Carlos. Il restait une bonne dizaine de minutes à jouer encore puisqu'il y avait 5 minutes de temps additionnel. Donc... Ça n'a pas tourné en ta faveur, les buts concédés en effet sur le corner, mais aussi sur le premier but, il y a deux erreurs d'appréciation, de relâchement, enfin c'est grossier et évitable. Mais après voilà, ce genre d'erreurs-là sont tout de suite sanctionnées quand en face, bah, c'est le deuxième de Ligue 1 qui est sur une dynamique et qui est fort logiquement au final récompensé d'une saison plus qu'aboutie.
Parmi ces points de bascule, la tête d'Antoine Mendy qui s'était écrasée sur la barre transversale de Robin Isser, ça aurait pu faire de partout. Et pourquoi pas commencer un tout autre match, c'est ce que pense en tout cas Dante, il a confié en zone mixte juste après la rencontre, écoutez.
Parce que là, 2-2, le match n'est pas pareil. Et je pense qu'il restait encore 20-25 minutes. Et là, c'est pile poil bien. On allait prendre, à mon avis, l'ascendant dans le match. Et ça allait nous redonner une bonne énergie. Mais voilà, c'est dommage. C'est comme je vous avais dit, on a passé à ça. Et c'est comme l'image de notre saison. C'est les petits détails qui comptent quand on prend un but ou qu'on ne marque pas.
Vous êtes d'accord, Fabrice, le gym revient à 2-2 et peut-être que Lens, à ce moment-là, commence à douter.
Moi, je suis surtout content de cette prestation parce que c'est vrai que les dernières semaines, et notamment ce qu'on produit contre Metz, c'était alarmant. Et là, pour le compte, je trouve qu'on sort un match, tout le monde nous dit, la France du football, dit, vous allez voir, Lens, ils vont vous ratatiner. Ouais, ben, moi, très franchement, j'ai trouvé qu'ils ont un alignement des planètes parfait. Ils ont quatre occasions, ils mettent trois buts. On fait deux erreurs défensives énormes. Et même sur le troisième, c'est consternant. On attend que le gardien sorte alors qu'il faut dégager. Enfin bon, bref. Et nous, on frappe le poteau, on frappe la barre, on rate un ballon à 10 mètres du but. Voilà, donc c'est la dynamique qui sourit. La chance sourit aux audacieux. Voilà. Lens est en Ligue des Champions et nous, on est barragistes. Voilà, c'est l'histoire.
Il y a aussi un truc, c'est qu'une finale, ça se gagne aussi avec des bons attaquants. Et là, pour le coup, quand tu as un Saïd que tu peux faire rentrer, nous, on fait rentrer un Carlos, c'est aussi à l'image de la saison. On ne transforme pas parce qu'on n'a pas devant les tueurs, quoi. Puis tu peux défendre bien, mais...
T'as chaud et eux, ils ont Saint-Maximin.
Hein. Oui, c'est
pas... T'en as un qui passe pas un crochet, l'autre, il en passe 25.
C'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Fabrice, on peut s'entendre là-dessus. Dante a dit aussi, en zone mixte, qu'il n'avait pas vu l'OGC Nice produire autant d'occasions depuis 6 mois. C'est une réalité, on a vu la meilleure version de 2026 de l'OGC Nice, Guy, lors de cette finale.
Oui, je pense que cette fois-ci, il y avait l'envie. Il n'y a que le manque de confiance qui a été flagrant cette fois-ci, parce qu'on a fait jeu égal à minima avec cette équipe de Lens, qui est quand même la meilleure équipe de France sur la saison complète. J'oublie pas le Paris Saint-Germain, mais pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe du monde, ou d'Europe, du moins. Lens, par contre, était l'équipe la meilleure sur le championnat de France. Donc, on avait largement les moyens de s'imposer.
La meilleure version de l'OGC Nice qui n'aura pas suffi face à des Lensois réalistes dans les moments importants, ça a fait la différence. Et Claude Puel l'a bien compris. Il l'a notifié en conférence de presse d'après match. Écoutez.
Eux, ils ont scoré... sûrement avec moins de situations, moins d'occasions, mais c'est vrai qu'on fait un bon match. C'est d'autant plus frustrant en réalisant cette prestation de pas être allé au bout. Je pense que on le méritait autant que cette équipe.
Certes, Maxime, Lens a eu moins d'occasions, mais bon, on les a quand même sentis sûrs de leur force au fur et à mesure du match, comme on s'en doutait finalement avant la rencontre.
C'est le bon élève face au mauvais élève, le jour de l'examen. Et au final, c'est malheureux à dire, mais l'issue, elle est ce qu'elle est. Et la bonne saison de Lens s'est récompensée là où la saison plus que catastrophique, dire. On va pas tourner autour du pot, mais c'est comme ça, c'est le foot. Après, sur le côté défaite encourageante... On a vu ces dernières semaines un Nice être un peu cette équipe poil à gratter face au gros, en allant gagner à Strasbourg, en accrochant Marseille au Vélodrome, en faisant un nul aussi à Lille où Nice peut gagner s'il n'y a pas un hors-jeu de rien du tout. Mais en fait, ok, mais ça ne nous assure pas derrière que face au Havre à domicile, ce Nice soit capable de faire un bon match, loin de là.
un partout. Je pense qu'on ait dit la même chose par rapport au débrief de Lens en Ligue 1. Et le match d'après, c'était Auxerre. Et vous arrêtez de jouer après le but de.
Exactement. Et c'était zéro. Et derrière, non, mais c'est bon, il reste encore Metz. Bon, on va se maintenir. Metz, ils sont en vacances et tout. Mais rien du tout. Metz, c'était le Real Madrid. Donc voilà, est-ce que quand c'est à toi de faire le jeu, quand c'est toi qui as la pression, tu réponds présent ces derniers mois? Ben non, jamais.
On en parlait aussi, Fabrice, en antenne, la différence entre les deux équipes, certes, elle s'est faite sur devant, sur le tranchant offensif, mais aussi sur les erreurs individuelles. Il y en a eu beaucoup sur plusieurs buts et surtout des cadres.
Mais oui, c'est, en fait, les cadres sont défaillants. Quand on voit la saison de Sofiane Diop, je veux dire, les six derniers mois, c'est une souffrance du début à la fin, alors que c'est un garçon qui est pétri de talent. Enfin, voilà, chaud qui fait la différence. Il a pas fait un crochet. Enfin, il n'est pas passé une fois. C'est terrible. C'est des joueurs qui sont largement au-dessus de ça et ils sont très en deçà de ce qu'ils sont capables de produire. Quand on voit Klose se faire lober sur. Enfin, moi, le but, je le vois venir le premier. C'est fou. Ouais. Il se fait lober. Les U7, ils font pas ça, quoi. Ça rend fou. Alors que c'est un joueur qui monte en puissance. Donc, nous, chaque erreur, finalement, on la paye. Mendy fait un super match, mais le troisième but, il se dit que Dupé va sortir, alors qu'on peut le jouer. Et il est loin, l'attaquant, en plus, au départ. Enfin, on peut le jouer très facilement et on le joue pas. Donc, nous, chaque erreur se paye cash. Et eux, chaque opportunité, ils la mettent au fond. Quand nous, on frappe la barre, le poteau, et puis après, on frappe au-dessus. Bon, ben voilà, c'est le bon élève, l'élève le jour de l'examen. Celui qui est tombé sur Ida, il avait tout révisé. L'autre, il est tombé sur le seul truc qu'il n'a pas révisé. Il est tombé dessus. Ouais. Et il repart avec la bulle. Voilà, ben, c'est pareil. Voilà, c'est sanction.
Vous pouvez dire, vous êtes professeur à l'école de journalisme. On a l'impression aussi, Guy, sur ce match, que Lens avait un petit peu plus de métier aussi. La poussée de Dodson Edouard sur le deuxième but, sur le corner. Abdallah Sissima, voilà, du bout du pied, qui vient devancer Antoine Mendy. Les soigneurs qui étaient peut-être par moments un peu plus roublards et avec plus d'expérience aussi à l'arrivée.
Oui, ce sont des certitudes que l'équipe de Lens a forgées tout au long de la saison. Parce que n'oublions pas que le match d'avant, ils battent Lyon à Lyon 4-0. Donc quand on a des résultats comme ça, on arrive avec, surtout face à un club qui a éprouvé les pires difficultés tout au long de la saison, on arrive plein de certitudes et bien sûr avec une mainmise sur le match. Et ce que je voudrais souligner, c'est le but d'Hudson Edouard, c'est un but signature au GC Nice 2026. Parce que c'est le même qu'on a pris tout au long de la saison, de maintes reprises. Quoi. C'est un but classique.
Alors, c'était pas Mathieu Edol qui s'entrait, mais...
Non, mais j'ai cru longtemps, j'ai vérifié. Parce que
c'était Florent Thauvin.
Et je me rappelais ce que disait Constantin à un certain moment.
Absolument. Ça vous aura pas échappé, messieurs, le GC Nice a mis la pression d'entrer au Racing Club de Lens, qui en a étonné plus d'un, dont Pierre Sage, qui l'a rappelé juste après la rencontre. L'écoute.
Je pense qu'ils nous ont surpris. Ils ont pressé, ils ont ressorti les ballons, même s'ils ont fait beaucoup de 6 mètres sur du jeu long. C'est des choses qu'on avait l'habitude de voir, mais ils nous ont vraiment surpris dans la manière d'appréhender la finale. Certains pensaient qu'ils n'allaient pas la jouer et ils nous ont bien confirmé qu'ils étaient présents dès les premières minutes. C'est ce qui peut-être a mis un peu l'équipe dans le doute au début, puisqu'on n'a pas été très très bon au départ.
Fabrice, vous demandiez des efforts, un supplément d'âme chez nos confrères d'ICI Azur la semaine dernière, dans un pamphlet d'ailleurs très, très juste chez nos confrères. On a l'impression, pour le coup, qu'ils vous ont écouté, les joueurs de Claude Puel. Dans l'engagement, en tout cas, c'était mieux.
Oui, c'était mieux, évidemment. Et le supplément d'âme, il était là. Alors, je ne pense pas qu'il m'ait écouté, mais tant mieux si ça a pu les inspirer un moment ou un autre. Tant mieux.
Sans écouter, ils ont peut-être entendu quand même.
Je pense que de toute façon, je ne suis pas le premier à dire ça, ni le dernier. Hein, évidemment, il suffit d'ouvrir les yeux et de les voir jouer. Une fois de plus, le match de Metz, je ne vais pas remuer le couteau à la plaie,
mais c'est professionnel.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une purge pareille, et on en a vu des purges. Hein. Mais celle-là, c'était le Real de Metz. Quoi. C'était impressionnant. On s'est fait balader par des mecs qui sont venus en tongs et qui avaient les bagages dans le bus pour partir après l'aéroport. Ils partaient en vacances.
Exactement.
Ils n'en avaient plus rien à faire, ils ne jouaient plus rien. Et ils nous baladent. À un moment, on pouvait perdre ce match. Bon, et à la fois, les Lensois, ils sont allés gagner à Lyon. Lyon s'est pas battu et du coup n'a pas menacé Lyon.
Pour un match pour du beurre en plus, parce que Lens ne jouait plus rien. Lyon devait valider sa place en Ligue des Champions. Lens fait tourner et malgré ça, en ayant pas mal de remplaçants sur le terrain, ils mettent 4-0.
C'est symbolique. L'effectif de Lens est beaucoup plus qualitatif que l'effectif niçois.
Et on le voit d'ailleurs avec les changements. Parce qu'à l'heure de jeu, Claude Puel décide d'essayer de changer quelque chose.
Tu vois, on peut l'avoir la composition d'équipe derrière le Racing Club de Lens. Effectivement, je voulais vous entendre, Maxime, sur ce triple changement à la 67e minute. Comment vous le jugez, ce turnover quasi de Puel à ce moment-là du match?
À ce moment-là, d'un autre côté, il sort un Sofiane Diop qui n'est pas resplendissant, ni sur ce match, ni sur les précédents. Il fait rentrer Ali Abdi et ailier gauche, comme il l'a déjà fait plusieurs fois ces derniers temps. Bon, bah, mais ça ne lui a pas donné raison, en fait. Et ça, il n'y avait pas une dynamique incroyable, mais ça a quand même un peu coupé le faible élan des Niçois. Après, c'est facile à dire maintenant. On aurait été curieux de voir quelle aurait été l'issue de cette rencontre. Il fait rentrer un Sanson aussi il a privilégié un Djibril Koulibaly, sa troisième titularisation de la saison. Il sort du chapeau, il apprend qu'il est titulaire dans l'après-midi, et il a été récompensé, le jeune, en marquant, donc tant mieux. Sanson derrière, avec son expérience, doit, est censé aussi apporter, et au final c'est pas le cas non plus.
Djibril Koulibaly, c'était la bonne surprise, finalement la bonne pioche de Claude Puel, John, et après on en parlera un petit peu plus en profondeur dans les top flops.
Comme le disait un certain philosophe, tu me parles pas d'âge. Je trouve que j'étais agréablement surpris par ce joueur, surtout dans tout ce qu'on a cité jusqu'à présent, l'envie, parce que là c'est clairement des valeurs qu'il faut mettre en avant. On manque de qualité, malheureusement, c'est comme ça, je pense que là c'est factuel. Et tu me sors une surprise comme ça à la Puel qui te permet d'espérer à la mi-temps. Donc c'est pas la même chose de finir à 2-0 ou à 2-1. Et Dante l'a justement dit, on peut arriver à 2-2, ça peut tout changer. Moi je trouve que ce joueur-là, ça n'a pas été le moins bon. Et pourtant c'était quand même que ses premiers matchs, quoi.
Mais ça montre les limites du recrutement aussi de ces derniers mois, des mercatos ratés, pas forcément que le dernier. Là où Lens fait rentrer des forces vives qui permettent, il y a 2-1, le match est loin d'être fait, il fait rentrer Sima, c'est Sima qui plie le match. Et derrière il n'y a plus de suspense.
Aussi du non-mercato hivernal aussi.
Aussi, par des choix. Mais oui, all-in sur Wai, sauf que Wai face à Metz, il passe au travers. Là, il a une occasion à 0-0, il passe au travers.
Et puis, donc, tu peux pas tout mettre sur un joueur.
Enfin, le recrutement, lors de la finale, ils sont tous remplaçants.
Absolument. Ne vous inquiétez pas, on continuera de parler de cette finale de Coupe de France dans un instant. Petite page de pub et après, on revient tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon pour évoquer cette défaite 3-1 face au Racing Club de Lens en finale de Coupe de France. Ça se passait évidemment à Saint-Denis au Stade de France vendredi. Nous sommes toujours en compagnie de Maxime Tilliette qui est avec nous, John Wadiz, Fabrice Morand, ancien speaker de l'OGC Nice, et Guy, correspondant Nice Matin. Tout de suite, on va s'intéresser à leur top flop dans cette séquence mythique de Copéglon. C'est parti. Allez, John, on y va. Yes. Dante en top, tout un symbole, j'ai envie de dire. Et pas de flop ce soir.
Non, déjà, début de saison, c'était pour le côté positif que vous m'aviez recruté. Donc, à la rigueur, si je fais mes derniers flops de la saison, je vais éviter d'être négatif. Dante, pour l'histoire, parce qu'on était à ça quand même sur sa tête en première mi-temps, d'avoir quelque chose d'incroyable. Sa déception à la fin du match, enfin, tout ce symbole que ça représente, on sait qu'il nous quitte. Pour moi, ça, c'est un top sur l'ensemble de sa saison, sur l'ensemble de tout.
Sur l'ensemble de son œuvre, on va dire.
Oui, voilà, soi-disant, mais même sur la saison, parce qu'il revient, il essaie de donner ce supplément d'âme qui nous manque. Donc, et la feuille est décisive, enfin voilà, Dante, quoi. Et pas de flop, parce que j'estime qu'il faut plutôt essayer de mettre en avant les rares qualités qu'on a pu voir récemment sur cette finale. Donc on encourage tout le monde, voilà.
Max, le top, sans grande surprise, c'est Djibril Koulibaly. Et le flop, c'est Hicham Boudaoui.
Oui, parce que alors sur l'ensemble de la finale, il fait pas un match catastrophique, loin de là. Par contre, il fait une chose qui plombe toute la finale. C'est il se dit bon, le ballon me vient dessus, il va venir tout seul. Ouais. Sauf que non, il y a Thauvin qui vient se battre pour aller gratter ce ballon. Il enchaîne contrôle frappe et derrière c'est sanctionné. Alors c'est ce qui casse peut-être ta bonne entame de match, toute une dynamique. T'es sanctionné. Alors avant ça, ok, il y a une erreur d'appréciation, de lecture de Jonathan Clauss, mais ça aurait pu être compensé et rattrapé sur ce centre en retrait en effet qui arrive pas bien fort dans la surface de réparation. Il doit jaillir dessus plutôt qu'être un peu trop suffisant.
Il a du mal au Stade de France, Hicham Boudaoui, c'est pas vraiment son jardin.
Il a pas frappé,
Il a fait un flop pour le coup. Fabrice, le flop de ce soir, le temps qu'on a parlé avec Djibril Koulibaly juste avant, c'est Mohamed Ali Chaud, vous en parliez en début d'émission. Bon, après, c'est tiré sur l'ambulance, hein, c'est vrai,
Chaud, il doit faire tellement plus. Il est pétri de talent, ce mec, c'est vrai, quoi.
On l'a dit combien de fois?
Ouais, mais au moins quelques fulgurances, même si c'est pas sur un match, comme Boga, voilà, Boga était capable de faire 10 mauvais matchs et 2 bons. Là, il n'y a pas un bon, là. C'est quand? C'est bientôt. Remarquez si c'est demain et vendredi. Ça va, hein, mais on attend et on s'épuise, quoi.
Guy, en top, on a parlé de Boudaoui en flop avec Max juste avant. En top, il faut quand même le souligner, et c'est très très important. Je suis content que vous l'ayez mis en top. C'est le peuple niçois qui était présent au Stade de France.
Ah ouais,
il faut leur rendre hommage.
Ouais, tout à fait, parce que j'étais sur place et je me suis rendu compte à quel point ce club suscite vraiment ses supporters. Et il y avait vraiment une osmose totale entre les supporters. Bon, je ne parle pas des 40 abrutis qui sont allés se battre au canal de Saint-Martin, parce que ceux-là, ils ne font pas partie des vrais supporters. Mais l'ensemble du peuple qui était réuni dans les gradins, c'était vraiment fabuleux. La descente du Tifo, enfin, il y avait une très belle ambiance.
Voilà. Allez, on a fait le tour sur cette finale de Coupe de France. Place maintenant à deux autres finales.
Le sujet qui fâche.
Absolument. On va rentrer dans le temps additionnel quasiment de cette émission, puisqu'on continue ce soir jusqu'à 40-45. Mais en tout cas, un focus qui est très important, celui de Saint-Étienne-Nice. C'est parti. Allez, premier focus consacré à ce barrage Ligue 1, Ligue 2 contre Saint-Etienne. Le gym qui va connaître son destin cette semaine. Match aller demain à 20h45 à Geoffroy Guichard. Le retour aura lieu vendredi soir dans une Alliance Riviera à huis clos à 20h45 toujours. Deux soirées spéciales d'ailleurs sont à suivre sur BFM Nice Côte d'Azur dès 20h avec avant-match live commenté, débrief et après-match. Soyez au rendez-vous les amis, messieurs. Là voici la question du focus. L'OGC Nice a-t-il plus de chances de quitter l'élite que d'y rester? Est-ce que le gym est-il favori à la descente, oui ou non? Et après, on développe juste après. John?
Oui.
Max?
Favori à la descente.
Fabrice?
Non, jamais de la vie. Non, non, on reste en Ligue 1, c'est sûr.
Je ne sais plus quoi répondre. Vous m'avez... Non, la question est délicate. J'avoue qu'elle mérite réflexion.
Elle mérite réflexion. Alors, peut-être qu'on va écouter d'abord le camp du Mont avec Fabrice. Tout de suite.
Mais on ne va pas avoir peur de Saint-Etienne, franchement, quoi. Enfin, non, non.
On n'avait pas peur de Metz.
Oui. De beaucoup d'équipes. Mais pas peur d'Auxerre non plus.
C'était la coupe. Là, c'est la coupe maintenant. Okay.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Fabrice?
Mais ils marchent pas sur l'eau, les Stéphanois. Enfin, ils sont en Ligue 2, il faut
une
fin
de saison. Oui, mais nous, on fait de la plongée, donc c'est le problème.
C'est vrai, mais on fait une super finale. Oh, non, mais sur le papier, on est au-dessus. Bon, après, c'est vrai qu'on va... Geoffroy Guichard, c'est plein. On va chez nous,
il y a personne.
Huis-clos, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, parce que je pense qu'on aurait fait le plein de nous aussi.
Oui,
parce
que
le peuple niçois aurait été capable de se mobiliser pour soutenir les Aiglons. Mais oui, je pense qu'on est supérieur à Saint-Etienne, voilà. Pour moi, il n'y a pas de doute.
Maxime?
Moi aussi, beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, parce que ces dernières semaines, ces derniers mois ne m'ont pas rassuré. Parce que Saint-Etienne a eu plus de temps pour préparer ce match, à regarder la finale, tranquille, devant le canapé. Philippe Montagnier espérait d'ailleurs que ce soit Nice avant la dernière journée de championnat, et il est bien content de tomber sur ce Nice-là, parce que justement, la finale, les barrages sont décalés, ils ont... Je pense que Nice a loupé le coche sur les deux dernières journées où c'était le moment où il fallait. Voilà, il y avait deux finales, c'était abordable. À Auxerre, sous le score, tu t'effondres. Il y a un but évitable avec une faute de main d'Ivan Djouf. C'est malheureux parce que peut-être dans 5-6 jours, on va se dire ouais, ça s'est joué à ça. Et le match face à Metz où tu passes au travers. C'était ces deux opportunités-là qu'il fallait saisir. Et là, ça va être plus compliqué, je pense, face à Saint-Etienne.
Messieurs, que disent les statistiques depuis l'instauration de ce barrage Ligue 1, Ligue 2 depuis 2017? Eh bien, on va le voir à l'écran. Avantage au club de Ligue 2, bien que très légèrement. 4, c'est le nombre d'équipes de Ligue 2 à avoir remporté ce barrage en 7 éditions depuis la saison 2016-2017. Saint-Etienne en a perdu une depuis la Ligue 1 en 2022, avant de remporter ce barrage en 2024 pour monter dans l'élite. Philippe Montagnier, le coach des Verts, en a perdu une en 2019 avec Lens. Il faut aussi préciser que Nice va devoir composer avec les absences liées aux sélections des mondialistes et les différents accords avec les fédérations. On le rappelle, la date de ce barrage décalé suite à la finale de la Coupe de France est en dehors du calendrier international. Vous le voyez, c'est passé pour Eli Wahi, Antoine Mendy et Yevan Diouf. Gros point d'interrogation en revanche sur le match de vendredi pour Hicham Boudaoui, Ali Abdi et Kojo Peprahokon. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé respectivement avec l'Algérie, la Tunisie et le Ghana.
Normalement, Boudaoui, Opong et Abdoul Samed feront le premier match.
Voilà, pour le match aller, c'est ça. Voilà, et grosse interrogation pour le match de vendredi soir, pour le match retour. Je vais rester avec vous, Fabrice, parce que vous êtes le seul à me dire non autour de la table. Certains parlent d'un gym justement galvanisé contre Lens. Souvenez-vous, on disait la même chose avant Auxerre pour ce match-là de Ligue 1. Et pourtant, le GC Nice a perdu.
Je vous l'accorde, c'est la méthode Coué, ok. Mais j'ai le droit. Bon.
D'accord, on comprend mieux là maintenant.
Non, enfin, je refuse de penser qu'avec cette équipe, même si je l'ai déjà dit, je l'aime pas, cette équipe, je refuse de penser qu'on va descendre face à Saint-Etienne. Franchement, je crois pas. Voilà. Mais vraiment.
Mais j'ai le sentiment qu'au club, on s'est dit ça jusque la 85e minute face à Metz.
Oui.
Mais non, on va pas descendre. Franchement. Oui. Non, mais sur le papier, franchement.
C'est tout
et
à fait
au final.
Vrai.
Ben non, en fait, il y a un moment, il va falloir être conscient de la situation.
Oui. Et puis on avait 9 points d'avance, puis 8 points d'avance, puis 6 points d'avance.
Incroyable.
C'est sûr, et on se disait, on a le temps.
Guy et John.
Non, en fait, pour j'appuie un peu ce que tu dis justement, Max, c'est que j'allais parler de ça, puis du coup, il y a tout le focus, mais c'est la première saison où le club de Ligue 2 n'est pas défavorisé. On parle souvent de ça,
oui,
le club de Ligue 2, voilà, pour enchaîner, pour monter, c'est beaucoup plus galère. Cette saison, entre la FIFA, enfin la Coupe du Monde.
Ouais, c'est l'inverse.
Donc pour moi, je suis pas confiant du tout et malheureusement, force est de constater que l'OGC Nice ne nous a pas donné des éléments de réponse favorables.
Guy ?
Oui, moi je voulais revenir sur la présence de Maurice Cohen dans cette émission. On avait fait un plateau, il était d'une confiance absolue.
Il tapait du poing sur la table.
Ah oui, il tapait du poing sur la table, il était persuadé que rien n'allait nous arriver.
Il a redit plusieurs fois dans l'émission, on va se maintenir.
La méthode Coué.
C'était aussi la méthode Coué de...
Exactement.
C'est notre ami.
Et un peu du Cohen.
Moi, ce que je voulais signaler, c'est que...
La méthode Cohen.
Ce ne sont pas des matchs de barrage qui sont à armes égales, parce que déjà, nous, on vient de jouer une finale au cours de laquelle ils ont beaucoup donné, alors que les Stéphanois, comme on le disait précédemment, ils se sont reposés. Ensuite, Eli Wahi sera absent du match aller. Et au match retour, nous aurons un match à huis clos. Donc tous les éléments perturbateurs de la Terre se sont déclenchés sur le GC Nice. C'est pour ça qu'on manque de confiance sur ces deux rencontres.
Aussi, Maxime, il y a une différence aussi de contexte peut-être. C'est-à-dire que le GC Nice, quand ils sont en position de favori, passent souvent les coches. Et à Lens, ils étaient plus libérés, personne ne les attendait.
Amen.
Il y a aussi ce point-là à prendre en compte.
C'est clair, ça va être une adversité différente, un contexte, un rapport de force totalement différent. On va l'aborder avec Saint-Etienne, qui n'est pas non plus sur une dynamique exceptionnelle, ce qui aussi peut...
On va voir la composition de Saint-Etienne. D'ailleurs, la composition... alors là, où on a la présentation des Verts, vous le voyez, troisième de... Ah, la composition de Saint-Etienne maintenant, avec des joueurs qui sont
jolis
en jeu. David Tajvidi, Stassin, Cardona également, qui est le meilleur passeur de Saint-Etienne en Ligue 2. Il y a de la qualité, Max, plus qu'on le pense dans cette équipe. Quand même.
Bien sûr, des joueurs qui connaissent la Ligue 1, pour beaucoup, à chaque ligne, il y a de l'expérience. Devant les noms, on se dit, il pourrait être titulaire dans cette OGC Nice, David Tajvidi, Stassin, Cardona, on l'a vu faire des très bonnes choses. Alors peut-être que c'est une équipe qui manque de confiance parce qu'ils se sont pris aussi un petit peu les pieds dans le tapis sur les dernières semaines. Et ça a été très laborieux sur ce match face à Rodez que j'ai pu voir. Mais sinon, c'est sûr que c'est un effectif qui ressemble à un effectif de Ligue 1.
On continue de parler de la Saint-Etienne dans la troisième partie de Coupe Aiglon tout de suite. Après la pub, à tout de suite. De retour sur le plateau de Coupe Aiglon pour évoquer ce barrage de la peur à Ligue 1, Ligue 2 contre Saint-Etienne, toujours en compagnie de John Wadis, Maxime Tilliette, Fabrice Moreau et Guy Rosset. On a longtemps parlé de l'OGC Nice, c'est l'heure maintenant de s'intéresser au vert de Philippe Montagnier. Et pour nous éclairer sur l'adversaire du gym ce soir, j'accueille Thibaut Auclair, journaliste du service des sports du Progrès. Bonsoir Thibaut, ravi de vous accueillir dans Coupe Aiglon. Première question pour vous, on est dans quel état d'esprit à Saint-Etienne? Est-ce qu'on est plutôt confiant quand on voit la dynamique de l'OGC Nice en championnat, où la finale de Coupe de France finalement a changé cette perception?
Bonsoir à tous. Bah, je pense un peu des deux, parce que au moment du dernière journée de Ligue 1, il y avait plutôt la confiance et le côté positif d'éviter Auxerre ou une équipe vraiment sur une bonne dynamique. Et c'est vrai qu'on en a parlé ce matin sur les conférences de presse avec le coach Philippe Montagnier et le défenseur central Julien Le Cardinal. La finale face à Lens, c'est vrai qu'elle rappelle toutes les qualités qu'a cette équipe de Nice et le fait qu'elle a absolument rien à faire là. Donc du coup, c'est vrai que ça a mis un petit coup de froid quand même.
On attend 40 000 personnes environ demain à Geoffroy Guichard. 25 000 places ont été vendues dans la journée de la pré-vente. On le sait, le gym va être attendu demain. Cet engouement, cette ferveur, elle est palpable aussi en ville. On attend des supporters gonflés à bloc demain à Geoffroy Guichard.
Voilà, c'est sûr, à Saint-Etienne, le foot, vous le savez, c'est pas un secret, c'est quand même très très important et c'est ce qui fait la santé de la ville, des Stéphanois. Et cette saison, elle est plutôt négative, même si on va pas mettre à la même échelle que Nice. Mais voilà, c'était cette équipe de Saint-Etienne avec des moyens qui sont bien plus grands que ceux de la Ligue 2 devait monter directement pour tout le monde et pour les supporters. Donc la fin de saison avec ces trois défaites sur les quatre dernières journées, ça a été mal vécu par les supporters. Après, il y a eu ce 5-0 anecdotique contre Amiens sur la dernière, puisque Le Mans a fait la part du travail de son côté. Donc Saint-Etienne n'est pas monté direct. Après, il y a eu ce petit 0-0 contre Odez et cette folle séance des tirs au but qui remet de la joie quand même dans le stade et dans le cœur des supporters. Mais ça reste quand même une saison plutôt négative côté Saint-Etienne.
La saison de la SSE, elle a été marquée par le changement d'entraîneur fin janvier d'Éric Orneland à Philippe Montagnier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les principes de jeu de Philippe Montagnier sur le jeu stéphanois?
Bah, vous l'avez peut-être vu sur le match de Coupe de France avec Éric Orneland, c'était un jeu très très ouvert. Il demandait ces entraîneurs plus modernes qui demandent beaucoup de projections vers l'avant. Du coup, on a des matchs souvent débridés avec beaucoup de buts. Et quand Philippe Montagnier est arrivé, il a un peu resserré tout ça. Un jeu beaucoup plus pragmatique. Il y a eu beaucoup moins de buts, moins de projections, un système aussi moins ambitieux. Mais cette équipe, elle a retrouvé de la solidité défensive directement dès qu'il est arrivé. Il y a eu cette série sur ses 9 premiers matchs. Montagnier, c'est 7 victoires de nul. Donc l'équipe qui était 5e s'est retrouvée en position de monter direct dans les 2 premiers. Et donc après, comme je disais tout à l'heure, il y a eu cette série plus compliquée, 3 défaites de suite. Saint-Etienne qui perd son destin et qui fait pas de montée directe. Donc il y a un peu 2 périodes dans l'ère Montagnier.
Comment vous l'expliquez justement ce trou d'air dans le Money Time pour la Saint-Etienne?
Il y a eu une cascade de blessures, je pense que ça a beaucoup joué. En plus, dans ces blessés, il y a eu quand même des joueurs qui sont des cadres, qui ont beaucoup d'expérience. Et c'est vrai que d'un coup, il y a plus beaucoup de caractère dans cette équipe. Quand ça prenait un but, on sentait que c'était fini, que l'équipe allait pas retourner le match. Donc ces blessures, elles ont quand même bien changé le visage de l'équipe. Et aujourd'hui, pour cette fin de saison et pour ce barrage, il y a quand même beaucoup de ces joueurs qui reviennent. Par exemple, Florian Tadieu qui a raté quasiment 3 mois de compétition. Julien Le Cardinal, dont je parlais tout à l'heure aussi, qui est arrivé de Brest pendant l'hiver avec une belle expérience. Il a manqué ces quelques défaites. Donc cette équipe va peut-être retrouver un peu le caractère qui lui a manqué sur cette série noire.
Au niveau des individualités, vous en avez cité quelques-unes, Thibaut. Quel Stéphanois sort du lot cette saison et qui pourrait vraiment poser problème à la défense, à l'arrière-garde de l'OGC Nice, mais même au côté offensif?
Sur le côté offensif, c'est là où il y a quand même les plus belles armes du côté de l'SSE. Il y a forcément en premier lieu Zurico Davitashvili qui a été élu meilleur joueur de Ligue 2, donc qui est le meilleur buteur de l'SSE et qui a fait aussi pas mal de passes décisives. International géorgien sur le côté gauche qui est très technique, qui est le danger, j'ai envie de dire, numéro 1. Avec quand même Lucas Tassin qui avait fait une forte impression sur la deuxième partie de saison dernière en Ligue 1, avec tous ses buts d'ailleurs de la saison. Et il avait été évoqué comme David Ajuly, on pensait pas qu'ils allaient rester en Ligue 2, ces joueurs. Sauf que voilà, il y a une nouvelle direction à l'SSE qui a déjà un nouveau propriétaire qui a beaucoup d'argent et une nouvelle direction qui a voulu afficher aussi son caractère et de garder ces joueurs-là qui n'ont rien à faire en Ligue 2, mais qui après ont vécu aussi le contre-coup de ça parce qu'ils voulaient partir. Il y a eu une première partie de saison un peu compliquée pour eux et la deuxième a été quand même beaucoup mieux.
Dernière question, Thibaut. Demain, c'est le retour de Claude Puel dans le Forez. Il avait été démis de ses fonctions fin 2021, avant la relégation du club en fin de saison. Quel accueil vous pensez qu'il va recevoir Claude Puel et que lui reproche-t-on véritablement à Saint-Etienne ?
Bon, l'accueil, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Hein. Il ne va pas être applaudi. Parce qu'en effet, en fait, la descente, il y a eu deux descentes récemment de Saint-Etienne. Mais celle de 2022, en fait, il incarne un peu toute cette époque parce que c'était un manager général qui faisait tout dans le club, le coach. Et du coup, forcément, c'est un peu voilà, l'incarnation de cet échec-là. Donc les supporters lui en veulent. Mais après, forcément, il n'était pas seul responsable. Il y a énormément de joueurs qui n'ont pas été au niveau sur cette année-là, avec la descente au barrage, justement, contre Auxerre. Mais oui, il n'y a pas beaucoup de doutes. Je pense qu'il sera bien sifflé.
Merci beaucoup, Thibaut, d'avoir été avec nous dans Copéglon. Et désolé si je ne vous dis pas bonne chance pour cette semaine. Vous comprendrez pourquoi.
Merci, j'en fais de même.
Merci à vous. Merci beaucoup. Messieurs, on va réagir un petit peu sur ce que nous disait Thibaut. Avant quand même que tu nous dises, Max, ce qui s'est passé en conférence de presse cet après-midi, parce que Claude Puel a évoqué sa parenthèse stéphanoise et il a voulu remettre les choses au clair.
Oui, il a voulu défendre son bilan sur ses années stéphanoises et notamment évoquer un contexte économique très compliqué à ce moment-là à Saint-Etienne où il avait pour mission de créer des actifs, donc valoriser des jeunes joueurs pour pouvoir les vendre. Et à défaut, il nous a dit sur les 4 mercato qu'il y a eu pendant sa présence à Saint-Etienne, ils n'ont pas pu recruter le moindre joueur. Donc bon, voilà, il a essayé de se défendre. Je ne suis pas certain que les Stéphanois soient totalement en accord avec ses propos, mais voilà, il a tenté d'éviter peut-être quelques... Ça va peut-être lui éviter 2-3 sifflets, mais bon, ouais. Sur 40 000, c'est pas beaucoup.
Il va falloir batailler, Fabrice. Hein. C'est ce qu'on retient des...
Ouais,
que nous dit Thibaut.
D'abord,
est-ce que ça change d'ailleurs votre avis sur Saint-Etienne? Parce que,
absolument pas, pas d'un iota. Et alors, plusieurs choses. D'abord, ils seront peut-être 30 000, je sais pas.
40 000,
mais ils seront pas sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, eh bien, ils peuvent siffler Claude tant qu'ils veulent, parce que lui, alors, ça lui fait ni chaud ni froid, mais alors, vous pouvez même pas imaginer à quel point. Bon,
il en a
fait jeter des trucs, oh, Puel, oh, et vraiment, il est hermétique à
stoïque.
Ça. Mais complètement. Ça va pas du tout ni le déstabiliser, ni rien du tout. Non, non, on va arriver costaud. Non, ça change absolument pas mon point de vue, je maintiens.
Guy, la vie sans Eli Wahi, comment on fait sur ce match aller?
Ben, on a Carlos.
J'ai vu un lapsus arriver.
On a Carlos, donc on est plein d'espoir. Il va peut-être marquer, enfin. Non, je ne sais pas s'il va le faire jouer, mais peut-être que ce sera le tour du petit Boudache qui pourrait apporter quelque chose dans cette équipe.
Autant qu'il a signé peut-être à Lyon, donc ce serait un petit clin d'œil. ce serait sympa.
John, le dernier mot de Scopeglon.
Magnifique intervention qui pourrait avoir tendance à nous rassurer, parce que ça ressemble un peu à l'OGC Nice, tout ce qu'il a dit sur cette saison. Sauf que je persiste un peu comme Max, c'est pas les adversaires qui me font peur. Moi, c'est l'équipe, c'est l'OGC Nice. Et un match sans Wahi, j'ai pas souvenir d'une victoire ou d'un beau match.
Effectivement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec moi ce soir dans Copéglon. On se retrouve nous lundi prochain à 19h pour la dernière de Copéglon, la dernière de la saison. Espérons-le avec le sourire et le maintien en poche. N'oubliez pas également le rendez-vous de cette semaine, les deux rendez-vous avec deux éditions spéciales demain à partir de 20h et vendredi là également à 20h. Passez une très belle soirée. À bientôt.